Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, n'est-ce pas? Alors, une joyeuse fête à toutes les mamans. Quel que soit le côté récent de votre maternité, s'il est peut-être récent, s'il est lointain, s'il est en cours, peut-être, pourquoi pas, hein? Ou s'il est même adoptif, il y a des mamans d'adoption aussi, et des grands-mamans d'adoption. Et ce matin, j'aimerais justement saisir cette occasion pour parler de deux mamans de la Bible, et voir un petit peu leur histoire, voir un petit peu les contrastes. Et à partir de ces deux mamans, eh bien, pour chacun d'entre nous, réfléchir à notre vie, au sens de notre vie chrétienne. La première de ces mamans, c'est la maman du prophète Samuel. Elle s'appelle Anne. Et la deuxième de ces mamans, c'est la maman de Jacob et d'Ésaü, son jumeau. Il s'agit de Rebecca. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible d'abord en 1 Samuel, où nous découvrons Anne. Premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament, et au chapitre 1, nous découvrons une famille un petit peu particulière, avec un époux qui s'appelle Elkana, et voilà que ce monsieur a pris deux femmes. Pourquoi? Eh bien, parce que la première, manifestement, c'est Anne, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle est stérile. Et dans sa vie, c'est vraiment un drame, et à ce drame, sans doute, va s'ajouter celui de voir une seconde femme, donc la polygamie, s'ajouter pour que M. Elkana, eh bien, il puisse quand même avoir une descendance. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette seconde femme, Pénina, a des enfants, mais se fait un malin plaisir de mépriser Anne et de lui faire bien sentir qu'elle n'a pas d'enfants. Et le texte biblique au verset 7 nous dit qu'elle l'a mortifié. Et même elle essayait de pousser Anne à s'irriter contre Dieu. On le voit au verset 6. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Nous avons affaire à une femme qui a une histoire, et une histoire où il y a de la tristesse, où il y a de la souffrance, où il y a peut-être de la contrariété, des espoirs déçus, peut-être même un sentiment de trahison par rapport à son mari lorsqu'il va prendre une deuxième épouse. Et ce que j'aimerais souligner ce matin déjà au travers d'Anne, puis tout à l'heure de Rebecca, c'est que chaque maman, eh bien, elle a une histoire. On ne devient pas mère comme ça du jour au lendemain. Avant, puis pendant, puis après, puisque parfois c'est nos histoires continuent. Et certaines vont avoir un troisième, un quatrième enfant, mais entre le premier et le quatrième, il s'est passé des tas et des tas de choses. Il y a une histoire. Et là, c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire douloureuse, triste, d'une maman. On voit, au travers de Rebecca, donc nous allons garder ces deux passages, hein, glisser un petit marque-page en Samuel, et puis un autre marque-page en Genèse, où nous allons voir tout à l'heure, hein, chapitre 25 et puis 27, l'histoire un peu de Rebecca. Mais Rebecca, on a plus l'impression qu'elle a eu une vie un peu choyée, un peu gâtée, un peu protégée. En tout cas, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui a souffert. Du moins, la parole n'en fait pas mention. Mais elle a aussi son histoire avec un arrière-plan païen où on ne connaît pas l'Éternel, où on n'adore pas l'Éternel, où il y a de l'idolâtrie, et un arrière-plan d'une famille de roublards, une famille où le maître mot c'est de tromper les autres. Et comme ça, ça traverse les générations. C'est un héritage familial dans la famille de Rebecca, de Laban, son frère, puis on le verra, bien sûr, de son fils Jacob. C'est le sport familial. Tirer avantage, tirer profit, en trompant, en mentant. Et ça fait partie de son histoire, de son bagage. Alors peut-être on pense, nous, à nos mamans, à nos parents, je ne vais pas refaire une prédication pour la fête des pères, hein, mais c'est la même chose. Et souvent, on a du mal, puisque bien sûr on arrive, nous, après leur histoire, et puis le temps qu'on grandisse et qu'on mûrisse et qu'on se rende compte qu'en plus ils ont une histoire, oh là, il s'est passé des dizaines d'années, en fait, hein, quand on arrive... vers 30 ans et qu'on commence à voir ses parents comme des êtres humains normaux qui ont eu un passé, qui ont eu une histoire. Voilà. Et ça c'est quelque chose d'important. Parce que parfois, on peut juger nos parents. On peut leur en vouloir. On peut les mépriser peut-être. Et on fait l'impasse sur leur passé, sur leur bagage, sur leur histoire, sur leur souffrance, sur tout ce qui s'est passé avant. Et c'est important, lorsque nous pensons à nos parents et dans nos rapports avec eux, de nous souvenir de leur histoire et de savoir même honorer lorsqu'on commence à comprendre quelles ont été les difficultés dans leur vie, quels ont été les défis qui nous avaient échappé jusque-là. Dire, tiens, mais malgré ça, mes parents ont su m'éduquer. Mes parents ont su m'aimer quand même. Ou ils ont vécu telle épreuve dans leur vie. Comment est-ce que moi j'aurais réagi? Est-ce que je serais resté debout? Je ne sais pas. La Bible nous dit d'honorer nos parents. Tu honoreras ton père et ta mère. Et une première chose que nous voyons au travers de ces deux femmes, c'est leur histoire et leur héritage familial. Et elles deviennent maman avec ça ou malgré ça. Et ça compte aux yeux de Dieu. Et ça doit compter au nôtre. Par extension, et j'en profite, parce que ça ne se résume pas à des mamans qui ont une histoire. Chacun d'entre nous a une histoire, oui ou non? Et à un moment, on va se rencontrer, on va venir dans la même église, on va devenir collègue de travail, on va devenir voisin, on va... Et puis hop, une relation commence, quelle qu'elle soit, mais avant cette relation, les gens ont une histoire. ils ont un passé. Comme Anne. Comme Rebecca. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous accueillir, de nous aimer et de ne pas nous juger, d'estimer l'autre comme supérieur à soi-même. Parce que les gens autour de nous, eh ben, il y a tout un vécu que nous ignorons ou parfois que nous allons petit à petit découvrir, que nous ne pouvons pas comparer au nôtre. Et qui nous porte vraiment à être en relation avec l'autre, à l'accueillir avec son passé. Avec, comme dans le cas d'Anne, ses blessures et ses tristesses. Ou, comme dans le cas de Rebecca, avec des traits de caractère familiaux nocifs, mauvais. La Bible nous parle, en 1 Pierre 1, verset 18, de cette vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Oui ou non ? Le Seigneur dit, eh bien, il nous a rachetés. Je vous ai rachetés de cette vaine manière de vivre. Vous avez tous hérité, quelque part. Alors, il y en a beaucoup, il y en a d'autres moins, ça dépend les familles. On va y venir. Mais, il y a des boulets familiaux, comme chez Rebecca. Chez certains, ça va être un caractère colérique, explosif. Chez d'autres, ça va être, ici, la malhonnêteté, ou l'impureté, ou le matérialisme à tout craint, ou que sais-je. Et on emporte avec soi, et puis on devient soi-même parent, on devient soi-même acteur dans une vie familiale, dans une vie d'église. Sachons nous voir comme Dieu nous voit avec tout un parcours de vie. Et pas juste à l'instant T comme une photographie. Alors que nous puissions, et je reviens aux mamans, pouvoir honorer nos parents, disant tiens, quels ont été les handicaps qu'ils ont eus ? Les handicaps familiaux, comment ont-ils grandi ? Quelles ont été les blessures de vie qu'ils ont rencontrés. Et puis malgré tout ça, ils ont, entre guillemets, on dit, ils ont fait comme ils ont pu, ça, on verra, hein, mais Seigneur Denis, honore ton père et ta mère. Et j'imagine le jeune Samuel, lorsque, devenu adulte, qu'il était en relation avec sa maman, nul doute qu'il avait précieusement en tête et dans le cœur toute l'histoire de sa maman, qu'il n'ignorait sans doute pas, puisque ça l'a conduit à grandir dans le temple plutôt que de grandir à la maison. Hein, dès qu'il a été sevré, hop, Anne avait fait ce vœu en disant « Je le donnerai à l'Éternel » et le jeune Samuel, plutôt que de rester avec sa maman, et de grandir en tant qu'enfant, il est allé servir le Seigneur dans le temple. Alors il n'ignorait pas cette histoire. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est est-ce que nous nous agrippons à nos enfants ou est-ce que nous nous agrippons à Dieu ? Revenez en Samuel. 1 Samuel, Anne, à un moment, prend une décision, on y reviendra. Elle va au temple, elle prie, et elle donne toute son amertume et toute sa tristesse, elle la verse dans sa prière, elle s'adresse à l'Éternel, et elle fait un vœu. C'est le verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Voilà, elle fait ce vœu en disant « je te le consacrerai ». Et puis, elle devient enceinte. Verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Après, donc l'année arrive, le pèlerinage à Jérusalem, enfin, c'était pas Jérusalem, c'était à Silo, où était le tabernacle à cette époque-là, et alors, ce début d'année, Anne n'y va pas. Au verset 22, elle dit « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Donc elle garde son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Et on va dire « Est-ce qu'elle va s'agripper à son enfant ? Est-ce qu'elle va tenir sa promesse ? Est-ce qu'elle va accomplir son vœu ? Maintenant qu'elle a un enfant, est-ce qu'elle va savoir s'en détacher ? Ou est-ce que non ? Elle va avoir les doigts crochus. Pas pour de l'argent, mais pour son enfant. C'est mon enfant. Eh bien non. Au verset 24, nous voyons, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, elle le mena dans la maison de l'Éternel. L'enfant était encore tout jeune. Et puis au verset 27, elle dit au sacrificateur, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Est-ce qu'elle s'accroche à son enfant ? Non. Elle le laisse partir. Parce qu'elle s'est accrochée à Dieu. Nous voyons tout au contraire Rebecca. Nous retournons en Genèse. Et dans ce couple, les choses vont pas très bien. Regardez donc au chapitre 25, Genèse chapitre 25, nous avons un couple, c'est Rebecca et Isaac. Et ils ont des jumeaux, Jacob et Ésaü. Et au verset 27, il est dit, ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Deux enfants d'un caractère différent, un, il aime partir à la chasse, chasser le gibier, il est actif, c'est le guerrier, le nomade. L'autre, il est là, il préfère rester tranquillou à la maison, faire un peu de cuisine, peut-être écrire un peu de poésie, jouer un peu un instrument de musique, enfin, caractère doux, là. Bon, pourquoi pas, hein, pas de souci. Mais, par contre, ce qu'on trouve, c'est que, au verset 28, il y a des préférences parentales. Le papa, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Chacun a son fils préféré. C'est des jumeaux. Le père, il préfère le premier et la mère, elle préfère le second. Et ils vont grandir et qui va hériter ? Qui va avoir, va devenir le vrai chef du clan ? Aïe, 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 il y a de la concurrence là. Deux frères jumeaux. Normalement, c'est l'aîné, c'est Ésaü, il est sorti en premier. Et Rebecca, elle est embêtée parce que son poulain, hein, eh ben, il est deuxième, et il va pas hériter, et il va pas devenir chef. Pourtant, l'autre, c'est quand même son fils, hein. Ah non, non, mais là, elle préfère le deuxième, c'est comme ça. Alors, elle va transporter son héritage familial où on fait des combines, on trompe. Hein. Et elle va amener son fils, Jacob, à user de subterfuges et de tromperies pour voler le droit d'aînesse. C'est un épisode bien connu. et puis ensuite voler la bénédiction. Alors là, bien alors, on peut faire un film, l'autre il se colle des poils de chèvre parce que l'autre il est poilu, alors il se dit, si mon père qui est aveugle, ok, il va pas me voir, mais alors il va sentir, il faut que je change de vêtements, il faut que je me mette un peu des vêtements qui sentent mon frère, il faut que je me colle des poils sur les bras parce que l'autre il est touffu comme tout. Puis le papa aveugle, trompé, machin, alors il dit, elle va me préparer du gibier, alors la mère, bonne cuisinière, va réussir à donner à la chèvre un goût de bon gibier. Oh là là, le... Par contre, il se dit, eh, c'est bizarre, la voix, c'est quand même celle de Jacob. Mais ça marche! On voit une mère qui s'agrippe à son enfant. C'est son poulain, c'est son préféré, et elle veut absolument, plutôt que de s'agripper à l'Éternel. Quel va être le résultat? Ça va tellement mal se passer que Ésaü, en colère, va vouloir tuer son frère. Et que Rebecca va devoir dire à son fils préféré, « Écoute, ton frère n'est pas très content là. Je crois qu'il serait bon pour toi de faire tes valises et de partir loin. » Loin ! Et il va partir loin. Et Rebecca ne le reverra jamais. Ça, c'est important. Tu t'agrippes à ton fils, à tes enfants, tu ne veux pas les perdre. Plutôt que de t'agripper à Dieu, eh bien Jacob va devoir partir et il va passer plus de 20 ans, au moins 20 ans, sans doute une trentaine d'années, au loin. Et quand il reviendra enfin, sa maman sera décédée. Alors, vous voyez, quand on s'agrippe aux gens, plutôt que de s'agripper à Dieu, on perd tout. Alors que Anne, oui, elle a laissé partir son fils au temple, mais elle venait lui rendre visite chaque année. Chaque année, elle venait avec un petit vêtement, etc. Et puis, la parole ne nous le dit pas, mais quand, bien sûr, quand Samuel est devenu prophète de tout Israël et qu'il est devenu adulte, j'imagine bien qu'il devait faire des fêtes familiales et aller voir ses parents, ses frères et sœurs, parce que Anne n'a pas eu que Samuel. Après, Dieu lui a donné de nombreux enfants. Est-ce qu'Anne a perdu? Quand on donne à Dieu, on ne perd jamais. Et il vaut mieux savoir perdre pour Dieu, pour gagner, que de vouloir retenir et s'agripper aux choses qu'on ne veut pas perdre, mais hors du plan de Dieu. Et on finit quand même par les perdre. Alors voilà, pour les mamans, ça questionne, et pour les papas bien sûr, par rapport à nos enfants. Est-ce qu'on a des préférences? Est-ce qu'on fait des projets sur eux? Est-ce qu'on s'agrippe à des projets pour nos enfants ou à nos enfants eux-mêmes? Notre vie tourne autour d'eux, plutôt que de tourner autour du Seigneur. Nos enfants deviennent presque peut-être nos idoles, notre raison de vivre. Mais on perd tout quand c'est comme ça. Ce que je dis ici est valable dans bien des contextes. Est-ce que mon conjoint, c'est ma raison de vivre? Des fois, on rentre... Voilà, il y a quelqu'un dans notre vie, on s'agrippe aux gens. Oui. Plutôt que de s'agripper à Dieu. La Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Voilà. Il n'y a aucune personne dans notre entourage qui mérite qu'on s'y accroche, qu'on s'y agrippe au prix de ne pas s'accrocher à Dieu, en fait. Quand on doit s'accrocher à quelqu'un, mais pour cela devoir se décrocher de Dieu, se décentrer de Dieu, où Dieu n'est plus notre priorité, là il y a un gros problème. Jacob va devoir apprendre cela, on le verra plus tard. Il a hérité la vaine manière de vivre de sa maman. il est agrippé. Il est agrippé aux choses. Il est agrippé au bien. Il est agrippé à sa vie, à sa réussite, à son succès. Mais il va devoir apprendre à s'agripper à Dieu, au sens propre. Et c'est le célèbre épisode de Péniel au chapitre 32. Un épisode célèbre parce que c'est le moment, c'est l'épisode qui va donner naissance au nom Israël. Israël s'est né à ce moment-là. Dieu a changé son nom. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au chapitre 32, Genèse 32, nous avons un Jacob trompeur, un Jacob qui fait des combines, qui compte sur lui-même, qui s'agrippe aux choses plutôt que de s'accrocher à Dieu. Et le voilà de retour parce que finalement ça a fini par chauffer aussi au pays là où il s'était réfugié. Il a eu tellement entre guillemets de succès dans l'élevage que son beau-père et puis les beaux-frères, et là ça a commencé à sentir le roussi. Et quand ça a senti le roussi, c'était une raison financière, hein, il s'est dit, bon, il est temps que je me barre. Hein. Mais le problème, c'est qu'il avait peur de retourner parce qu'il y avait son frère Ésaü et il ne savait pas trop si son frère Ésaü n'allait pas le zigouiller en rentrant. Hein, parce que même 20 ans ou 30 ans après, on a la rancune tenace. Et il avait vraiment peur. Hein. Il était coincé, il ne pouvait pas rester à gauche et il n'était pas bien sûr d'être accueilli à droite. Alors, au verset 24, chapitre 32, verset 24, on voit que Jacob demeure seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et on voit Jacob dans cette lutte avec l'ange de l'Éternel, et puis qui le frappe, l'ange le frappe à la hanche. Mais Jacob s'agrippe. S'accroche physiquement, mais il s'accroche cette fois à Dieu. Il dit, non, je te laisse pas partir tant que tu m'as pas béni. Aujourd'hui, c'est à toi que je veux m'accrocher. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux m'accrocher à Dieu comme Jacob l'a fait? Plutôt que de m'accrocher à mes rêves, à mes projets, à ma famille, peut-être à mon conjoint, à mes enfants, à des tas de choses sur lesquels je maîtrise pas, mais j'essaye de maîtriser, j'essaye de m'accrocher, mais ça me décroche de Dieu. Anne, elle a fait le bon choix. Elle dit, moi je laisse partir, moi je m'accroche à Dieu et Dieu me le rendra. Et c'est ce qui s'est passé. Faisons-le dans notre vie. Ne nous agrippons pas à ce que de toute façon nous ne pouvons pas retenir vraiment. Accrochons-nous à Dieu. Troisième chose que nous voyons dans ces deux femmes, c'est l'influence qu'elles ont eue sur leurs enfants. Et là, donc, nous revenons à cette fête des mères ou des pères, je prends un peu d'avance. L'impact que des parents, ils ont sur leurs enfants. On transmet une bénédiction, on transmet une malédiction. Anne, elle va transmettre à Samuel une bénédiction. Anne, en prenant cette décision de dire « Je veux un enfant, mais si l'Éternel m'en donne un, j'ai compris. » Oui, je le voulais pour moi. » bien sûr, ça me ferait plaisir d'avoir un enfant, mais je comprends aujourd'hui que il appartiendra à Dieu. Il est pour Dieu, pas pour moi avant tout, pour Dieu avant tout. Eh bien, ce pas de foi qu'elle a fait, parce qu'elle a fait un énorme progrès spirituel, elle a eu une victoire. Eh bien, cette victoire, ça va être en bénédiction dans la vie de Samuel, parce qu'il va grandir dans le temps. Il va être tourné vers l'Éternel dans son âme, malgré le mauvais exemple des fils du sacrificateur. Parce que les fils du sacrificateur, c'était n'importe quoi. Il ne va pas se laisser influencer. C'était n'importe quoi au point que l'Éternel va les faire mourir. Hein. Parce qu'il y a un problème d'éducation de la part du sacrificateur. Mais Samuel, lui, va tenir ferme. Et tout jeune, Dieu va s'adresser à lui. Et il va apprendre. Il va finir par répondre lorsque Dieu lui dit « Samuel, Samuel ». Il va dire « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Oui, la maman de Samuel a été en bénédiction dans la vie de son fils. Et Rebecca ? Est-ce que Rebecca a été en bénédiction dans la vie de Jacob ? Pose la question. Elle lui a transmis son patrimoine familial de tromper et de s'accaparer des choses qui ne nous reviennent pas de droit. Elle lui a transmis cette préférence des enfants qui lui coûtera cher plus tard. Hein, cette préférence des enfants, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de Joseph. Ah, les préférences... Jacob, il va devoir quitter la maison. Il va devoir partir pendant 20 ou 30 ans. Il va être trompé par d'autres, pas par son oncle en fait. Il va se faire... Et puis, pendant 30 ans, sa vie, elle est hypothéquée, quelque part, par la position que sa maman a prise. Heureusement, nous arrivons à Péniel, il y reviendra, où il va rencontrer Dieu face à face, il va prendre une décision. Mais les 30 ans qui ont précédé, eh bien, ça a été 30 ans de misère spirituelle quelque part. Parce que Rebecca a impacté son fils négativement dans le mal. Elle lui a transmis non pas la crainte de l'Éternel et le respect du Seigneur et de suivre sa volonté, mais de suivre sa propre voie. Je suis ma propre voie. Et Jacob va suivre sa propre voie. 30 ans perdus quelque part. Nous, en tant que parents, Dieu nous donne cette responsabilité. J'impacte la vie de mes enfants. Je vais pouvoir, pour les 30 ans qui viennent, semer des belles graines qui vont germer et pousser en bénédiction dans leur vie, qui vont pouvoir leur donner une stabilité, un ancrage salutaire. Ou bien, je vais transmettre dans leur vie des épines, des poisons. Regardez la maman d'un roi en 2 Chroniques 22. C'est une femme qui, à la mort de son fils, deviendra elle-même reine, et ça a donné lieu à des tas d'œuvres littéraires. Hein. Elle s'appelle Athalie. Et dans le monde profane, elle est connue. Athalie. Parce qu'elle va faire supprimer tous les concurrents, elle va mettre à mort tous les gens de la famille royale pour qu'elle reste seule en position de régner. En 2 Chroniques, au chapitre 22, on se dit, mais attends, mais c'est une mère ? Mais oui. 2 Chroniques 22, au verset 2, nous avons le roi Akasia. Et Akasia avait 42 ans lorsqu'il devint roi, il régna un an. Il va mourir vite, hein, à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Et Omri était lui-même un roi inique. Regardez le verset 3. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab. Car sa mère lui donnait des conseils impies. Oui, on peut pousser nos enfants dans des mauvaises directions. Et on va hypothéquer leur vie ou une partie de leur vie avec des tas de choses tellement dommages. Par extension, ça ne s'adresse pas qu'aux mamans ou aux papas, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Tous, nous avons une certaine sphère d'influence ou d'impact autour de nous. Tous. C'est peut-être en tant que grands-parents, c'est peut-être en tant que voisins, en tant que collègues. On a une sphère d'influence et d'impact. On est en relation avec des gens, on interagit dans notre vie. Et on va pouvoir communiquer des choses qui vont être des graines de bénédiction. Ou bien, on peut aussi mettre sur le chemin de ceux qui nous entourent et des gens envers qui on a un impact, on peut mettre des graines de malédiction. Et ça, le Seigneur veut vraiment nous avertir et que nous prenions conscience que notre vie, nos agissements, nos choix, c'est pas juste ma vie privée, ça me concerne moi en tant qu'individu et puis les autres, c'est les autres. Non. Je peux entraîner avec moi des gens, impacter, et je peux les impacter en bénédiction, je peux les impacter vers le mal, vers ma propre voie, plutôt que vers la pensée de Christ. Alors, soyons attentifs sur l'influence, sur le modèle, j'ai envie de dire le modèle, l'exemple qu'on donne. Je me conduis de telle manière, quel est l'exemple que je donne autour de moi? Quel est le modèle que je donne? Ce modèle, il va être suivi, hein. Il va être observé. Et il va impacter. D'abord mes enfants, mais pas que mes enfants, les gens autour de moi. Nous terminons sur le fait que malgré les parents qu'on a eus, ou en dépit des parents qu'on a eus, dans le bon sens, il n'en demeure pas moins que il n'y a pas une règle d'automatisme. C'est pas parce que mes parents ont été des gens fidèles à Dieu que je vais être fidèle à Dieu. C'est pas parce que mes parents n'ont pas suivi Dieu que moi aussi je ne vais pas suivre Dieu. Il n'y a pas une règle d'automatisme, même s'il y a une vraie règle d'impact. Hein? On va traîner des boulets, je le redis en 1 Pierre 1, verset 18, la Bible nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Même si nos parents étaient des chrétiens, il y a des zones dans leur vie où ils ne se sont pas vraiment mis en règle avec Dieu, ils n'ont pas assez progressé, et ces choses-là, elles vont... Ça va être des épines que nos enfants vont devoir eux-mêmes plus tard gérer, faire face et trouver la victoire en Jésus-Christ. Hein, souvent. Mais, en dépit de tout ça, il y a une décision personnelle à prendre. La Bible ne nous dit pas tes parents c'était des gens bien, tu seras quelqu'un de bien, parce que de toute façon, on est bien de génération en génération, c'est automatique. Ou alors, mauvaise famille ça. Ou ça donnera jamais rien de bien. Non. Il y a une décision responsable de chacun face à Dieu. Nous le voyons chez Anne. Anne, pendant tout un temps, elle est stérile. Qu'est-ce qu'elle fait de cette stérilité ? Eh ben, elle est un peu, elle hésite, son cœur balance. Elle pleure, elle est amère. Elle a une tendance parfois à en vouloir un peu à Dieu. En tout cas, l'autre épouse la pousse dans ce sens-là. Comme la femme de Job, hein, qui lui disait « Maudit Dieu et meurt ». Vous vous souvenez de cette... Et elle est là, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je suis stérile? Pourquoi mon mari? Pourquoi... Ah, une amertume qui est là. Et on tourne en rond. Et ça fait des années qu'elle tourne en rond avec son handicap et avec surtout son amertume. Jusqu'au jour où elle prend une décision. Et peut-être ça a mis des années dans son cœur à se rendre compte qu'en fait, ben, comme tout un chacun, on veut son bonheur, on pense à soi, et puis on veut construire sa vie comme on l'entend. Et là, comme on l'entend, c'était avec des enfants, elle n'en avait pas. Et ça a dû lui prendre du temps de se rendre compte qu'en fait, elle voulait Samuel pour elle. Pour elle. Vous savez, on dit qu'on fait on fait des enfants pour nos enfants, mais on les fait pour soi. Ça nous fait plaisir d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille, tout ça. Et Anne, c'était pareil, c'est normal, c'est naturel. Et ça a dû lui mettre tout un temps de cheminement pour se rendre compte, d'arriver devant Dieu et de se dire, mais en fait, attends, si je creuse bien le fond de mon cœur, cet enfant, je le veux pour moi, pour qu'il soit instrument de mon bonheur. Je crois que quand elle s'est rendue compte de ça, c'est ce qui l'a amené à faire son vœu, en disant, ah ben non, il sera pour l'Éternel et consacré à l'Éternel. Si je l'ai, ça sera pour Dieu. Bien sûr, j'en profiterai aussi, mais ses priorités changent. Il y a une décision qu'elle prend, elle verse son cœur devant Dieu, elle fait ce vœu. Et le texte nous dit, regardez bien, 1 Samuel chapitre 1, verset 18, la fin du verset 18, une fois qu'elle a fini de prier, de parler au sacrificateur, cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ça y est, elle n'est pas encore tombée enceinte, mais elle a franchi un cap, elle a franchi une étape et son visage n'est plus le même. Il y a quelque chose qui s'est passé, elle se relève, elle n'est plus dans l'amertume. Elle n'est plus dans cet état d'esprit où tout stagne, où les pensées tournent en rond et macèrent. Non, elle se sort de ce bourbier en se s'agrippant, en s'accrochant à l'Éternel, en changeant ses priorités et en prenant une décision, en faisant un pas spirituel. Jacob, c'est la même chose. Il a hérité de la vaine manière de vivre de sa maman. Et il va la pratiquer pendant des années, jusqu'au jour où Dieu va l'amener au bout. Et où il va s'agripper, s'accrocher à Dieu et changer. Et il prend une décision personnelle. Et tous, nous avons besoin de prendre une décision responsable face à Dieu. Ça peut être une décision dans le bon sens. Mais méfions-nous, parfois nous prenons des décisions dans le mauvais sens. C'est quelque chose qui se scelle, pour ainsi dire. Et je pense à Rebecca dans ce sens-là. Je pense à Rebecca qui s'est mise à préférer un de ses enfants, puis qui a continué. Et puis, il y a eu l'épisode du plat de lentilles, hein, le fameux plat de lentilles, où son fils vole le droit d'aînesse. Et puis est-ce que ça l'arrête, elle? Non. Elle va continuer en conseillant son fils, parce que c'est elle, hein, l'instigatrice du truc, c'est elle qui va lui donner la combine. femme intelligente, mais pas intelligente pour le bien. Il y a quelque chose dans son cœur à un moment, une décision qui est prise, et ça nous fait penser à un célèbre personnage de la parole. C'est Pharaon. L'épître aux Romains revient sur Pharaon. Quelqu'un, l'Éternel lui parle, il lui dit non. Pharaon, il endurcit son cœur. Une nouvelle plaie. Moïse revient lui parler, Dieu lui parle à travers Moïse. Pharaon, il hésite, ouais, peut-être, hein, je ne sais pas, mon cœur balance. Ben non ! Et je reprends une décision, et je l'endurcis. Et il va d'endurcissement en endurcissement. Ne nous endurcissons pas face à Dieu. Nous pouvons, comme Anne, Anne aurait pu rester amère toute sa vie. Jacob aurait pu rester roublard toute sa vie. Mais ils ont tous les deux pris la bonne décision. Alors, ce matin, de quoi on se rappelle ? Premièrement, chacun a une histoire. Anne avait son histoire, Rebecca son histoire. Voyons-nous les uns les autres avec notre histoire. Pour que nous ne nous jugions pas les uns les autres, mais pour qu'on puisse vraiment s'accueillir dans l'amour. Ça ne veut pas dire tout passer, hein, mais ça veut dire une attitude qui prend la personne dans son entier, dans son passé, dans son histoire, dans ses blessures. Et pensons à nos parents dans ce sens-là. Deuxièmement, est-ce que je vais m'agripper aux choses, à mes rêves, à mes projets, à ma manière de vivre, aux gens, à quelqu'un dont aujourd'hui je me sens éperdument amoureux, et tant pis si ça me décroche de Dieu? Ou est-ce que je vais dire non, je ne vais pas m'accrocher à ça, parce que je vais perdre, je vais m'agripper à Dieu. Troisièmement, l'influence, l'impact. Est-ce qu'on réalise qu'on a un impact envers les gens autour de nous? On peut avoir un impact de graines de bénédiction, mais on peut malheureusement aussi, et c'est souvent le cas, avoir un impact de graines de poison qu'on donne et qui plus tard verseront leur venin dans la vie des gens autour de nous. Et puis, cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est justement venu pour nous racheter de la vaine manière de vivre de nos pères, cette possibilité pour chacun, à tout moment, de prendre une décision, même si ça fait 30 ans, comme Jacob. En plus, 30 ans, peut-être, quand il revient, ça veut dire qu'il a 50 ans, le gars, hein. Il a dû partir vers 20 ans. Enfin, une bonne partie de sa vie est passée. Mais, il prend là, enfin, une décision pour s'accrocher à Dieu. Ne restons pas avec notre amertume, notre propre voix, mais prenons, on peut prendre une décision, parce que Jésus-Christ nous rend capables. Il nous a rachetés, son sang a coulé, pour que nous puissions justement être libérés, libérés de cet héritage, pour entrer en possession d'un autre héritage, celui du royaume de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes ces histoires de la Bible, ces personnages qui nous ont précédés et dont tu as écrit l'histoire pour que nous puissions, des siècles plus tard, les lire afin d'en être enseignés, afin d'en tirer leçon pour nous. Nous voulons te prier ce matin pour que vraiment tu travailles dans nos cœurs, pour que nous nous considérions tous les uns les autres dans notre histoire. Et puis, que tu nous aides à ne pas nous agripper aux gens ou aux choses ou à nos rêves, ou à notre manière de vivre à nous, ma propre voie, mais que nous lâchions prise, que nous t'agrippions toi. Seigneur, tu veux vraiment nous avertir, nous faire prendre conscience de la responsabilité de notre modèle, de notre exemple de vie. Le fait que, qu'on le veuille, qu'on le cherche ou qu'on ne le cherche pas, nous impactons des vies autour de nous. Et nous voulons, Seigneur, être des servantes et des serviteurs devant toi. Des outils qui impactent en bénédiction pour les autres. Alors aide-nous à prendre les décisions nécessaires pour vraiment rester en toi, marcher en toi, revenir vers toi s'il le faut. Nous voulons, Seigneur, te prier pour toutes les mamans, les grands-mamans, les mamans d'adoption, afin qu'en cette journée particulière, tu leur donnes une joie spéciale qui vienne de toi, dans ce ministère qu'elles ont accompli. Peut-être, parfois, pas toujours en lien avec toi, mais que tu puisses, aujourd'hui, Seigneur, donner cette joie de t'avoir rencontré, d'être en toi et de pouvoir continuer un ministère qui cette fois peut beaucoup pleinement être en adéquation, en ancrage avec ta pensée, avec ta volonté. Bénis toutes ces sœurs au nom de Jésus. Amen.